Je vous invite à écouter ou à suivre la lecture dans votre Bible ou à l'écran du texte que nous allons méditer ce matin. Il se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 5, versets 33 à 42. Exaspérés, ceux qui les écoutaient étaient décidés à les supprimer. Mais un pharisien nommé Gamaliel, maître de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et donna l'ordre de faire sortir ces gens un instant. Puis il dit, « Hommes d'Israël, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens-là. Avant ces jours-ci, en effet, s'est levé Teudas, qui se disait quelqu'un, et auquel se sont ralliés environ 400 hommes. Il a été supprimé, et tous ceux qui s'étaient laissés persuader par lui ont été mis en déroute. Il n'en est rien resté. Après lui s'est levé Judas le Galiléen, à l'époque du recensement, et il a entraîné du monde à sa suite. Lui aussi a disparu, et tous ceux qui s'étaient laissés persuader par lui ont été dispersés. Maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces gens et laissez-les aller. S'il s'agit d'une décision ou d'une œuvre humaine, elle disparaîtra. Mais si cela vient de Dieu, vous ne pourrez pas les faire disparaître. Prenez garde de ne pas vous trouver en guerre contre Dieu. » Ils se laissèrent persuader par lui. Ils appelèrent les apôtres, les firent battre, leur enjoignirent de ne plus parler au nom de Jésus et les relâchèrent. Ceux-ci se retirèrent de devant le Sanhédrin, tout joyeux d'avoir été jugés dignes d'être déshonorés pour le nom. Et chaque jour, au temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle du Christ Jésus. Dans notre série sur l'apôtre Pierre, nous arrivons ce matin à ce texte où nous retrouvons les apôtres devant le Sanhédrin. Que s'est-il donc passé? Nous nous souvenons que Pierre et Jean avaient déjà été arrêtés, emprisonnés, convoqué devant le Sanhédrin, puis relâché avec l'ordre express, accompagné de menaces, de ne plus enseigner au nom de Jésus. Mais les apôtres, préférant obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, ont continué à témoigner de leur foi en Jésus le ressuscité. Depuis ce passage devant le Sanhédrin, l'Église n'a pas cessé de grandir. Dieu a continué à accomplir des signes et des prodiges dans tout le peuple par la main des apôtres. D'une telle manière tellement extraordinaire qu'il suffisait, nous allons le lire, que l'ombre de Pierre touche un malade pour qu'il guérisse. C'est cette situation qui empirait jour après jour du point de vue des autorités juives, qui les amène sous la conduite du grand prêtre à intervenir en arrêtant cette fois-ci tous les apôtres et en les jetant en prison. Je lis Actes 5, versets 12 à 18. Beaucoup de signes et de prodiges se produisaient dans le peuple par la main des apôtres. Ils se tenaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. Parmi les autres, personne n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les magnifiait. De plus en plus de gens croyaient au Seigneur, une multitude d'hommes et de femmes. On apportait les malades dans les grandes rues et on les plaçait sur des litières et des grabats pour qu'à la venue de Pierre, son ombre au moins puisse couvrir l'un ou l'autre. La multitude accourait aussi des villes voisines de Jérusalem pour portant des malades et des gens perturbés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Alors, rempli d'une passion jalouse, le grand prêtre et tous ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire le parti des Sadducéens, intervinrent. Ils mirent la main sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Voilà donc comment Pierre et les apôtres se retrouvent à nouveau en prison. Le verset 17 nous précise que le grand prêtre et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis d'une passion jalouse. Jalousie à cause de la popularité des apôtres et de l'estime, de la grande estime que le peuple leur portait. Cela ne pouvait plus durer à leurs yeux. Et c'est ainsi que les apôtres sont arrêtés et emprisonnés. Mais ils n'étaient pas dans le plan de Dieu qu'ils restent en prison. C'est pourquoi pendant la nuit, un ange du Seigneur vient les délivrer. Je continue la lecture au verset 19. Mais pendant la nuit, l'ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison. Il les fit sortir et leur dit, « Allez, tenez-vous dans le temple et dites au peuple toutes les paroles de cette vie. » Ayant entendu cela, ils se rendirent au temple dès le matin et se mirent à enseigner. Dieu libère donc les apôtres par l'entremise d'un ange qui leur dit d'aller non pas se cacher, mais d'aller au temple pour y enseigner. C'est osé, c'est risqué, c'est se jeter dans la gueule du loup. Mais c'est pourtant ce que font les apôtres. Entre-temps, au matin, le Sanhédrin se rassemble pour statuer sur le sort des apôtres. Et nous poursuivons la lecture à la fin du verset 21 jusqu'au verset 26. Le grand prêtre et ceux qui étaient avec lui arrivèrent. Ils convoquèrent le Sanhédrin et toute l'assemblée des anciens des Israélites et envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Les gardes, à leur arrivée, ne les trouvèrent pas dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent leur rapport en disant « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardiens à leur poste devant les portes, mais quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. » Lorsqu'ils eurent entendu cela, le commandant du temple et les grands prêtres, perplexes à leur sujet, se demandaient ce qu'il adviendrait de cette affaire. Quelqu'un vint leur annoncer, « Les hommes que vous avez jetés en prison se tiennent dans le temple, et ils instruisent le peuple. » Alors le commandant et les gardes allèrent les chercher, ils les amenèrent sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Quand les apôtres sont cherchés par les gardes pour comparaître devant le Sanhédrin, ces derniers trouvent leur cellule vide. Pourtant, elle est bien fermée à clé. Pourtant, les gardes sont bien en faction devant la porte. Mais à l'intérieur, il n'y a aucun apôtre. Ce rapport fait au Sanhédrin par les gardes plonge l'assemblée dans une perplexité que l'on peut assez facilement comprendre. Une perplexité interrompue par l'annonce que les apôtres se tiennent dans le temple et qu'ils sont en train d'y enseigner. On les fait chercher, on les amène sans violence, dit le texte, parce que la popularité des apôtres est telle qu'ils ont peur d'être lapidés si jamais ils leur faisaient quelque chose. Les apôtres sont maintenant devant le Sanhédrin. Et le grand prêtre les somme de s'expliquer. Continuons la lecture avec ce dernier texte, à partir du verset 27 jusqu'au verset 32. Quand ils les eurent amenés, ils les firent comparaître devant le Sanhédrin. Le grand prêtre les interrogea. Ne vous avions-nous pas donné l'injonction formelle de ne plus enseigner en ce nom-là, dit-il ? Vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Vous êtes décidés à faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre répondit, ainsi que les apôtres, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'à des humains. Le Dieu de nos pères a réveillé Jésus que vous, vous avez éliminé en le pendant au bois. » Dieu l'a élevé par sa droite comme pionnier et sauveur pour donner à Israël un changement radical et le pardon des péchés. Nous, nous sommes témoins de tout cela avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Oui, on leur avait interdit d'enseigner au nom de Jésus. Mais les apôtres ont choisi d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, comme Pierre et les apôtres le disent au verset 29. Il leur rappelle également qu'ils sont responsables de la crucifixion de Jésus, que Dieu a cependant ressuscité des morts. Puis il parle de l'élévation de Jésus à la droite du Père, comme pionnier, on peut aussi traduire comme prince et comme Seigneur. Pour quoi faire ? Pour donner à Israël, donc aussi aux membres du Sanhédrin, la repentance et le pardon des péchés. Les apôtres sont témoins de ces choses, ayant reçu le Saint-Esprit que Dieu donne à ceux qui lui obéissent. La charge contre le Sanhédrin est sévère. Ils ont crucifié, éliminé Jésus en le pendant au bois, verset 30. Ils sont tenus pour responsables par les apôtres. Fin du verset 28. Ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit, puisque Dieu ne le donne qu'à ceux qui lui obéissent. C'est ce qui est impliqué par le verset 32. Oui, la charge est très sévère. Et c'est ici que nous revenons à notre texte du départ et à l'intervention d'un certain Gamaliel. C'est notre deuxième point, après cette introduction, qui nous a permis de préciser le contexte, les circonstances des événements en cours. Après que Pierre et les apôtres aient pris la parole, les membres du Sanhédrin, lisons-nous au verset 33, sont exaspérés et décidés à les supprimer. Ça sent sérieusement le roussi pour les apôtres. Le Sanhédrin est décidé plus que jamais à mettre un terme à cette histoire, à cette situation qui échappe complètement à leur contrôle. Cette situation qui les discrédite entièrement aux yeux du peuple. Si Gamaliel n'était pas intervenu, il est fort possible qu'une condamnation à mort des apôtres ait été prononcée ce jour-là. Bien sûr, Dieu avait d'autres projets. Et c'est ainsi qu'un certain Gamaliel se lève et prend la parole. Gamaliel était un pharisien, c'est-à-dire un maître de la loi. C'était, nous l'apprenons par d'autres sources, un des plus célèbres rabbins de l'époque qui avait environ 1 millier de disciples, dont celui qui deviendra l'apôtre Paul, un certain Saul de Tarse. Gamaliel était membre du Sanhédrin, du Grand Conseil donc, et le texte précise au verset 34 qu'il était estimé de tout le peuple. Estimé de tout le peuple. La Mishnah, qui est le recueil de la loi juive orale, le pendant de la Torah, si vous voulez, le pendant oral de la Torah, affirme qu'à la mort de ce Gamaliel, disparut tout respect de la loi, pureté et force d'âme. Des paroles qui soulignent très certainement la grande influence que Gamaliel avait auprès du peuple à cette époque. Gamaliel prend tout d'abord la parole pour faire sortir les apôtres un instant afin que le Sanhédrin puisse délibérer tranquillement. Puis une fois que les apôtres sont sortis, Gamaliel met en garde le Sanhédrin sur ce qu'ils vont faire aux apôtres. Et pour étayer son argument, il donne 2 exemples historiques. Celui d'un certain Teudas et celui d'un certain Judas le Galiléen. Il y aurait ici beaucoup de considérations historiques à discuter, Il y aurait aussi des questions chronologiques à voir, mais c'est plutôt technique et ça n'apporte finalement pas grand-chose à la compréhension de notre texte, en tout cas au sens du propos de Gamaliel, donc je ne rentre pas dans ces détails. Mais justement, où Gamaliel veut-il en venir avec ces deux exemples? En fait, Gamaliel cite l'exemple de deux hommes qui ont rallié du monde à leur suite et à leur cause, mais qui tous les deux ont rapidement disparu. Ce sont des exemples de tentatives infructueuses d'insurrection. Ils ont rapidement disparu et ceux qui les suivaient ont été dispersés, éparpillés, et on n'en a plus entendu parler. Pourquoi Gamaliel cite-t-il ces deux exemples négatifs, ces deux situations rapidement avortées? C'est la suite de son propos qui nous apporte la réponse. Et je relis les versets 38 et 39. « Maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces gens et laissez-les aller. S'il s'agit d'une décision ou d'une œuvre humaine, elle disparaîtra. Mais si cela vient de Dieu, vous ne pourrez pas les faire disparaître. Prenez garde de ne pas vous trouver en guerre contre Dieu. » Le point que Gamaliel veut faire passer est le suivant à mon sens. Les deux mouvements d'insurrection cités en exemple ont tous les deux disparu après la mort de leur leader. Ce qui veut dire que maintenant que Jésus est mort, si le mouvement chrétien vient des hommes, il disparaîtra lui aussi, sans que le Sanhédrin n'ait quoi que ce soit à faire pour cela. Par contre, s'il vient de Dieu, il durera, quoi que fasse le Sanhédrin pour s'y opposer. Et alors, il serait même dangereux de s'y opposer parce que cela équivaudrait à faire ou à entrer en guerre contre Dieu. Entrer en guerre contre Dieu, une idée absolument effrayante pour un juif pieux de l'époque. Voilà, me semble-t-il, le propos, le cœur du propos de Gamaliel. Et nous pourrions paraphraser, c'est comme si Gamaliel disait « Attendons, mes frères, ne nous emballons pas. Si cette église de Jésus, de ce Jésus, est une œuvre humaine, elle va disparaître d'elle-même, puisque son leader, Jésus, est mort. » Mais si c'est une œuvre de Dieu, alors rien ne pourra la stopper. Et si nous essayons de le faire, nous déclarerions la guerre à Dieu. Voilà assurément un propos plein de bon sens et de sagesse. Un propos où Gamaliel décide, notons-le quand même, de prendre des risques en adoptant une position modérée qui va complètement à l'encontre de l'ambiance du moment. Nous avons quand même lu au verset 33 qui voulait le supprimer, enfin qui voulait les supprimer. Que s'est-il passé ensuite? Le Sanhédrin, bien qu'il se soit laissé persuader par Gamaliel, ne l'a pas tout à fait suivi dans ses recommandations au verset 38. Ses recommandations de ne plus s'occuper d'eux et de les laisser aller, ils ont quand même voulu marquer le coup. Et c'est ainsi que les apôtres sont battus, dit le texte. Peut-être les 40 coups moins un qui étaient prévus par la loi. Vous savez sans doute que la loi interdisait de donner plus de 40 coups de bâton pour éviter la mort avec cette sanction, et pour être sûr de ne pas dépasser 40, alors les Juifs avaient déterminé de s'arrêter à 39. Comme ça, pas de risque. Ça fait les 40 moins 1 dont va parler l'apôtre Paul plus loin dans le livre des Actes. J'imagine qu'un coup de bâton, ça doit faire mal. Très mal même. Alors plusieurs, voire 39, ça devait être difficilement supportable. Après avoir été battus, les apôtres sont libérés avec cette même injonction de ne plus parler de ce nom, du nom de Jésus. Et que font les apôtres au verset 42 ? Ils se sont réjouis d'avoir été jugés dignes d'être déshonorés pour le nom de Jésus, et ils se sont remis à enseigner tous les jours dans le temple la bonne nouvelle du Christ Jésus. Quelle détermination et quel courage! Une détermination et un courage qui ne peuvent venir que de Dieu, qui donne toujours ce qu'il ordonne à ses enfants qui cherchent à le servir fidèlement. J'aimerais maintenant terminer avec deux prolongements. Deux prolongements de notre texte, c'est notre troisième point. Et le premier prolongement que j'aimerais aborder se formule ainsi: ce qui est du Seigneur se réalise toujours. Ce qui est du Seigneur se réalise toujours, c'est ce que Gamaliel sous-entend dans ses propos. Et je pense qu'il a raison. Ce qui est du Seigneur se réalise toujours. Quand Dieu détermine quelque chose, rien ne peut s'y opposer. Rien ne peut l'empêcher de réaliser sa volonté, pas même Satan. Prenons l'exemple de Jésus, de l'Église. Souvenons-nous de ce que Jésus disait à Pierre à ce sujet. Moi, je te dis, Matthieu 16, verset 18, que tu es Pierre, et sur cette pierre je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Jésus annonce que son église subira les assauts des portes du séjour des morts, littéralement des portes de l'enfer, c'est-à-dire du royaume des morts en opposition au royaume de Dieu dont Dieu confie les clés à Pierre dans ce texte. Ce que Jésus est en train de dire ici, c'est que rien, pas même la mort, pas même les portes de l'enfer ne pourront détruire son Église. Oui, il y aura de l'opposition, oui, il y aura de la persécution, mais personne ni rien ne pourra éradiquer l'Église de cette terre. Ça fait 2000 ans que beaucoup s'y emploient. Mais cette promesse du Seigneur nous garantit que personne n'y parviendra. Oui, ce qui est du Seigneur se réalise toujours. Et Dieu est même capable pour cela d'incliner le cœur de ses ennemis. Il est même capable de se servir de ce qu'ils font. Toute chose ne concourt-elle pas au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein ? Oui, Dieu fait concourir toutes choses, les bonnes et les mauvaises, pour la réalisation de son plan, pour la réalisation de sa volonté, pour le bien de ses enfants. Quel encouragement de savoir cela, de savoir que la volonté de Dieu s'accomplit toujours. Et je ne suis pas ici en train de parler du choix de mes prochaines vacances, par exemple, mais de tout ce que Dieu met en œuvre, et nous avec lui, pour l'avancement de son règne et pour sa gloire. Si ce qui vient du Seigneur s'accomplit toujours, il faut cependant faire quelques précisions ici en apportant quelques nuances. Et la première, c'est que dire cela ne veut pas dire que tout ce qui a du succès est forcément de Dieu, et encore moins forcément béni par Dieu. Il y a des entreprises toutes humaines qui ont du succès. Il y a des entreprises injustes, des entreprises maléfiques qui ont du succès pour un temps, qui prospèrent. Et parfois, il faut attendre un certain temps et un temps certain avant de voir la ruine subvenir, mais elle subvient toujours. Attention donc à ne pas faire cette fausse équation qui consiste à voir la main de Dieu derrière tout ce qui est florissant et tout ce qui a du succès. Ce n'est pas le cas. La deuxième nuance ou précision que je voudrais apporter, c'est que si tout ce qui vient du Seigneur se réalise toujours, il ne faut cependant pas y voir une raison ou une occasion à une certaine inaction, à une certaine paresse, à une indécision certaine. En effet, ce raisonnement pourrait avoir l'effet pervers de notre affirmation. Puisqu'il y a une certitude que les voies de Dieu se réalisent toujours, le risque de tomber dans un de ces travers que je viens d'évoquer est réel. Croire que Dieu est souverain et que sa volonté s'accomplit toujours ne m'autorise pas à ne pas m'engager, ne m'autorise pas à ne pas faire ma part des choses, ne me donne pas l'autorisation de ne pas faire des choix quand il faut les faire et de ne pas prendre des décisions quand elles doivent être prises. Pourquoi ? Parce que Dieu se sert de nous pour accomplir sa volonté. Parce que les voies de Dieu n'étant pas nos voies, nous ne savons jamais à l'avance quelle est sa volonté. Il est donc important d'œuvrer pour le Seigneur dans cette compréhension. Et cela, je crois, nous libère d'un énorme poids. Le poids de se sentir responsable du succès de l'œuvre de Dieu. Nous semons, nous arrosons, mais c'est Dieu qui fait croître, n'est-ce pas ? Ce principe qui est vrai pour le salut s'applique d'une manière générale à toute l'œuvre de Dieu. Quelle grâce, mes amis, de pouvoir servir Dieu ainsi. Quelle grâce de pouvoir rechercher sa volonté ainsi. Quelle grâce, par exemple, de pouvoir rechercher un deuxième pasteur pour notre Église ainsi. En sachant que c'est Dieu qui est véritablement à la manœuvre et qu'il conduira toutes choses pour sa gloire et pour le bien de son Église. Oui, ce qui est du Seigneur se réalise toujours. Le deuxième et dernier prolongement que je voudrais faire concerne la joie dans l'épreuve. C'est ce qui se passe dans notre texte. C'est la joie dans l'épreuve, et nous devrions même dire la joie dans la souffrance. Une précision tout d'abord. Ce n'est pas la souffrance elle-même qui a suscité la joie des apôtres. Ils ne sont pas masochistes. C'est la raison de cette souffrance, à savoir leur attachement à Jésus, et surtout le fait qu'ils aient été trouvés dignes de souffrir pour Jésus. Ainsi, ils ont considéré le traitement, sans doute très difficile à vivre, qu'ils ont subi, non pas comme une humiliation, mais comme un honneur. Chers amis, comment vivons-nous l'épreuve et la souffrance que le Seigneur permet dans notre vie ? Et je ne parle pas ici de la souffrance de la maladie, par exemple. Je ne parle pas ici des souffrances de la vie en général. Je parle ici des souffrances qui sont liées au fait que nous sommes chrétiens. Au fait que nous témoignons de notre foi, au fait que nous nous déclarons ouvertement comme disciples de Jésus, au fait que les autres savent que je suis disciple du Seigneur. Il est vrai que nous ne sommes pas persécutés comme le sont beaucoup de nos frères et sœurs dans le monde, en France aujourd'hui. Il est quand même très rare de mourir en France aujourd'hui à cause du Christ. Ça peut arriver, mais c'est quand même plutôt rare. Mais par contre, il n'est pas rare d'être moqué, d'être ridiculisé, d'être rejeté parce que nous sommes chrétiens, parce que nous ne nous en cachons pas. Comment vivons-nous le fait de porter l'opprobre du Christ, si nous le portons parfois ? Est-ce que nous sortons les griffes quand on nous interpelle là-dessus ? Est-ce que nous nous emportons ? Ou alors est-ce que nous nous réjouissons d'être trouvés dignes de souffrir pour le Seigneur ? Chers frères et sœurs, il est important ici de nous rappeler que le Seigneur n'a jamais promis à ses disciples un chemin facile. On a parlé de chemin ce matin. Et on peut se souvenir, par exemple, ici, de ce que Jésus disait dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16, versets 24 et 25, à ses disciples, concernant la suivance du Christ, concernant donc les disciples qui veulent suivre le Seigneur. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la trouvera. » Oui, il y a une exigence à suivre le Seigneur. Souvenons-nous de cette autre parole du Seigneur, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde, » dit Jésus. Notre texte nous propose une attitude qui est loin d'être évidente, j'en conviens facilement. Mais ce n'est pas le seul texte de la Bible qui nous engage à cela, loin s'en faut d'ailleurs. Et nous retrouvons dans la première épître de Pierre un texte qui va tout à fait dans le même sens. 1 Pierre 4, versets 12 à 16. Bien-aimés, ne soyez pas surpris de l'embrasement qui sévit parmi vous pour vous mettre à l'épreuve comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Au contraire, réjouissez-vous d'avoir part aux souffrances du Christ, afin qu'aussi vous vous réjouissiez et vous soyez transportés d'allégresse à la révélation de sa gloire. Si vous êtes insultés pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, car l'Esprit glorieux, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Cependant qu'aucun de vous ne souffre comme meurtrier, comme voleur, parce qu'il fait le mal ou parce qu'il se mêle des affaires d'autrui. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte, qu'il glorifie plutôt Dieu en ce nom. Oui, il y a une joie qui peut exister dans la souffrance qu'engendre la suivance du Christ. Ce n'est pas la joie de ce qui fait mal, bien évidemment, mais c'est la joie, pour reprendre les mots de ce texte, de prendre part aux souffrances du Christ. La joie d'être digne d'être associé à lui. La joie car l'Esprit glorieux, l'Esprit de Dieu repose sur nous. La joie tout simplement parce que je suis chrétien. Comme le disait Jésus dans les Béatitudes, heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Et je laisse le dernier mot à l'apôtre Paul dans son épître aux Romains au chapitre 5 qui dit ceci, « Bien plus, nous mettons notre fierté dans les détresses, sachant que la détresse produit l'endurance, l'endurance une fidélité éprouvée et une fidélité éprouvée l'espérance. Or l'espérance ne rend pas honteux, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par l'Esprit Saint qui nous a été donné. » Oui, c'est une fierté que de souffrir pour le Seigneur. Une souffrance qui produit l'endurance, qui elle-même produit la fidélité éprouvée, qui elle-même produit l'espérance. Quel beau programme! Que le Seigneur nous fasse la grâce de toujours porter avec fierté son nom, le seul qui a été donné aux hommes par lequel ils peuvent être sauvés. Amen. Je vous invite à quelques instants de silence.